La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur et notre Frère. Tous, pauvres ou riches, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, tristes ou joyeux, tous, nous sommes l'enfant aimé de Dieu en Jésus le Messie, le Christ, le témoin fidèle. Je vous invite à vous lever pour qu'ensemble nous nous présentions devant le Seigneur à travers le chant qui est dans les petits livrets que vous avez dans votre psautier. De tout cœur, Éternel, nous te rendons grâce pour ton amour et ta fidélité. Tu fais grandir en notre âme une force. Nous te rendons grâce quand nous entendons les paroles de ta bouche. Nous chantons les chemins de l'Éternel. Quelle est grande la gloire de l'Éternel. Quand nous marchons au milieu des angoisses, tu nous fais revivre. C'est ton action qui nous rend vainqueurs. L'Éternel fait tout pour nous. Notre Dieu, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Et je vous invite à reprendre ces propos à travers le chant du psaume 138 dans nos psautiers.
Dans ses projets, tu suis des...
Je vous invite à vous asseoir. Donc aujourd'hui, 8 mai, bien sûr, c'est donc un culte du souvenir. Ce culte du souvenir a lieu le dimanche le plus proche du 11 novembre ou le dimanche le plus proche du 8 mai. Il tourne dans différentes églises et dans différentes obédiences du protestantisme. C'est effectivement au niveau de la Fédération protestante que ce culte se déroule. À ce titre, je remercie l'Armée du Salut d'être présente à travers sa fanfare qui jouera après ce moment. C'est aussi au titre du culte du souvenir qu'à l'issue de la prière d'intercession et du Notre Père, en fin de culte, il y aura la sonnerie aux morts. Merci. Merci à tous les invités qui ont répondu présents. Merci aussi à l'Église protestante unie de l'Oratoire du Louvre qui nous accueille aujourd'hui. Merci à tous ceux qui accompagnent le culte. J'ai cité la fanfare de l'Armée du Salut, il y a aussi l'organiste. Je crois qu'ils sont. La musique est déterminante dans le déroulement d'un culte. Et je voudrais aussi, en ce moment-là, dire que nous évoquerons dans la prière d'intercession tous ceux qui, loin de leur pays, que ce soit au Liban, en République centrafricaine, sont présents pour le maintien de la paix, et tous ceux qui, dans des conditions plus difficiles, dans la bande sahélo-saharienne ou dans le Proche-Orient, sont là pour essayer de nous permettre d'être en paix et protéger notre paix. Voilà le déroulement du culte. Donc, toute parole dite est reprise par l'Assemblée sous forme d'un chant. C'est à travers le petit livret que vous avez là. Et tout à l'heure, nous chanterons aussi dans le recueil bleu ou dans l'autre recueil que vous avez. Nous allons reprendre le déroulement liturgique de ce culte. Et quoi de mieux que la musique pour le faire? Je remercie l'Armée du Salut de bien vouloir reprendre le déroulement du culte.
Thank you.
Voici ce que Jésus nous propose de vivre selon le témoignage de l'apôtre Jean. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous propose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
Ta parole, lumière pour nos vies, rassemble tous tes membres en un seul corps uni et fais de tous les hommes.
Je vous invite à la prière. Maintenant, ô notre Dieu, nous ne voulons plus vivre entourés de ces murs de haine, de ces murs de solitude, murs de nos misères, murs de nos plaintes, murs de notre mort. Dieu, source de vraie vie, nous t'apportons tout ce qui fait notre esclavage et ce qui nous aveugle. Nous t'apportons toutes ces barrières qui nous éloignent de toi, tous ces murs qui nous divisent entre nous. Nous espérons en toi, toi que Jésus-Christ nous a fait connaître pour chercher le pardon, pour chercher la libération, pour chercher la paix et la vie.
Mon Rédempteur est vivant, c'est en lui seul que j'espère. Le monde peut vivre, on est traité de la terre. Mais Dieu reste le
Le Christ nous a donné la certitude de la bienveillance de Dieu pour nous. En effet, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En Christ, l'Éternel, notre Dieu, se penche vers nous et nous dit « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, ta foi t'a sauvé. Avance en paix. » Je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance.
Je ne craindrai
Je vous invite à confesser notre foi d'après ces paroles de Martin Luther. Je crois que Dieu m'a créé, ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve mon corps avec ses membres, mon esprit avec ses facultés. Il me donne chaque jour libéralement la nourriture, le vêtement, la demeure et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. Il me protège dans tous les dangers. Il me préserve et me délivre de tout mal, tout cela, sans que j'en sois digne, par sa pure bonté et sa miséricorde paternelle. C'est ce que je crois fermement. Je crois que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est mon Seigneur. Il m'a racheté, moi, perdu et condamné, en me délivrant du péché, de la mort et de la puissance du malin, non point à prix d'or ou d'argent, mais par son sang, par ses souffrances et par sa mort innocente, afin que je lui appartienne pour toujours et que je vive d'une vie nouvelle, comme lui-même qui, ressuscité des morts, vit et règne éternellement. C'est ce que je crois fermement. Je crois que le Saint-Esprit m'appelle par l'Évangile. Il m'éclaire de ses dons et me sanctifie. Il me maintient en l'unité de la vraie foi dans l'Église qu'il assemble de jour en jour. C'est lui aussi qui me remet pleinement mes péchés ainsi qu'à tous les croyants. C'est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera avec tous les morts et me donnera la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce que je crois fermement. Amen.
À Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Vous pouvez prendre place. Pour entendre la lecture dans la Bible. Alors je vais vous lire un psaume un peu difficile, le psaume 6 de la Bible, où David est manifestement dans une profonde détresse et sa prière, depuis quelques 3000 ans, nous aide à prier dans nos peines physiques, psychiques, social et dans nos combats. Au chef de chœur, avec instrument à cordes, sur les 8 cordes, psaume de David. Ô Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me corrige pas dans ta fureur. Fais-moi grâce, ô Éternel, car je meurs. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants, mon être est tout tremblant, et toi, Éternel, jusque à quand ? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta tendresse. Car dans la mort, on ne se souvient plus de toi. Et qui te célébrerait dans le séjour des morts ? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, je trempe mes draps, j'arrose mon lit de mes larmes. Mon œil est rongé par l'irritation, il est vieilli par tous mes oppresseurs. Écartez-vous de moi. Disparaissez, vous tous qui commettez l'injustice. Car l'Éternel a entendu la voix de mes larmes. L'Éternel a entendu mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Et tous mes ennemis, saisis de honte, sont remués. Ils reviennent, soudain couverts de honte. Et puis je voudrais vous lire dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, ces paroles qui sont pleines d'une confiance dans l'amour de Dieu. À partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit « À cause de toi, on nous met à mort tout le jour. On nous considère même comme des brebis qu'on égorge. Mais dans ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et pour laisser le temps à ces paroles de résonner dans nos cœurs, je vous propose de chanter dans le psautier français, toujours, le psaume 68b, en fait. B, c'est la version de Genève. Un psaume que les protestants appellent familièrement le psaume des batailles. Donc c'est le psaume 68b, les trois strophes.
Thank you.
Nous prions Dieu avec ces paroles de saint Augustin. Seigneur mon Dieu, toi qui es la lumière des aveugles et la force des faibles, toi qui es aussi la lumière des voyants et la force des forts, sois attentif à ma prière, car sinon, où puis-je aller, à qui m'adresser? Ô mon Dieu, je suis comme une plante qui a besoin que tu l'arroses en la favorisant de ta bénédiction. Seigneur, par ton amour, fais que je puisse découvrir les merveilles de ta parole que tu places au plus profond de moi. Dans sa détresse, David essaye tout pour essayer de convaincre Dieu de lui venir en aide. Alors il commence par la repentance au cas où Dieu aurait quelque chose à lui reprocher, on ne sait jamais. Il essaye ensuite de lui faire pitié en pleurant. Il essaye ensuite de flatter Dieu. Enfin, il essaye le chantage. « Si tu ne me sauves pas, ô mon Dieu, je meurs, et toi, tu ne seras pas tellement plus avancé parce que les morts ne sont plus là pour chanter tes louanges. Tu as donc intérêt à me sauver, toi aussi. » Alors les plus grands spécialistes de la prière diront peut-être que ça ne se fait pas, qu'on ne prie pas ainsi. Pas de menaces, pas de flatterie, pas de chantage, pas de misérabilisme, pas de fausse modestie, ni avec Dieu, ni avec personne d'autre. D'ailleurs, ce n'est pas une façon d'entrer en relation. Et pourtant, ce psaume 6 est bien dans la Bible et il montre que David est exaucé à la fin de cette prière par Dieu qui vient à son aide. Alors donc, n'hésitons pas à prier, même si notre prière était toute de travers. Il conviendrait d'autant plus de prier à ce moment-là, car prier, c'est comme ouvrir la porte au médecin de notre âme, nous dit David. Il en a bien conscience, il dit « Fais-moi grâce, guéris-moi, Éternel ». Et puis au milieu, son souffle est comme étranglé. Il n'arrive même pas à finir cette plainte. « Et toi, Éternel, jusqu'à quand ?» Il ne dit pas la suite, ce qui se termine, qui se est comme étouffé dans un sanglot. Mais il constatera bientôt que Dieu a entendu la voix de ses larmes. Et Claudel, qui a traduit donc les psaumes, donne cette traduction de la fin du psaume 6. « Le Seigneur a entendu la voix tout bas de mes pleurs. Ô miséricorde divine à la rencontre de mon désespoir, il a pris dans ses mains ma prière pour la respirer. » Alors oui, son souffle à David, sa prière est émourante. Sa théologie aussi vacille, diront peut-être les théologiens quand ils entendent dire à David que les morts sont dans le néant. La théologie chrétienne traditionnelle affirme qu'au contraire, les morts sont au ciel, ils chantent plus que jamais les louanges de Dieu et qu'ils sont même accompagnés de toute une légion d'anges, peut-être avec des cuivres ou alors chantant ou avec des harpes, on ne sait bien exactement. Et donc, qui a raison, David ou le courant majoritaire du christianisme parlant de vie après la mort? Personnellement, je pense qu'il y a une vie personnelle, individuelle, qui continue au-delà de la mort du corps. Mais en vérité, personne n'en sait absolument rien, bien sûr. Et personne ne peut même imaginer comment est-ce que nous pourrions vivre au-delà de la mort de notre corps. Et donc nous verrons bien quand nous y serons, c'est une question pour un autre temps. David a en tout cas raison sur ce point, nous ici, nous n'entendons plus la voix de ceux qui sont morts. À moins que les vivants en ce monde, fassent entendre effectivement leur voix. Et donc c'est là que c'est essentiel de faire mémoire des morts. Car si une personne, si un peuple ne prie plus, il a comme perdu son souffle. Et une personne, un peuple, une humanité sans mémoire des morts a comme perdu son ossature. Et son être est tout tremblant, le dit David, comme un flamby finalement. Il est même comme de l'eau versée dans le sable. Alors éprouvé, David ressent tout d'un coup ce qu'est la mort. Il ressent une vraie peur de mourir, de cette sorte de perte dans ce qui peut nous sembler le néant. Et ce qui le bouleverse n'est pas tant de quitter ce monde et cette joie qu'il y a d'habiter dans ce monde, parce qu'il semble de toute façon, à ce moment de sa prière, qu'il a déjà perdu toute joie de vivre en ce monde. Mais ce qu'il ressent, c'est l'incroyable gâchis de la mort, faisant perdre aux vivants en ce monde, la louange de ceux que l'on n'entend plus. Frémissement, détresse devant cette inimaginable perte de ces voix éteintes, de ces louanges à la beauté de la vie, de ces louanges à Dieu. Gâchis de voir se perdre la mémoire d'engagement, de gestes vrais, d'amour, de paroles qui ont peut-être rendu la vie plus belle, qui ont rendu la vie possible, qui ont soulagé des peines, qui ont libéré des opprimés, qui ont donné souffle à celui qui en manquait, qui ont donné une ossature, une colonne vertébrale à un peuple, à une nation, à une humanité. Alors David apparemment repasse dans sa mémoire des êtres chers dont la voix s'est éteinte. Alors que parfois la mémoire d'un tout petit geste qui nous a frappés, peut-être quand nous étions petits dans l'enfance, suffit à nous faire reprendre pied, suffit à nous grandir, à nous rendre meilleurs, à nous guérir de quelque chose qui nous tuait. Il peut y avoir ainsi dans la mémoire une incroyable beauté, une prodigieuse fécondité de vie qui fait des miracles. Car qu'est-ce que la louange ? Littéralement en hébreu, c'est prendre en main un événement du passé. Prendre en main ce qui a été pour nous un germe d'évolution, de guérison, de réconciliation, de construction. Prendre en main ce qui a été de l'ordre de l'action divine, créatrice, découverte, dénichée dans l'action, dans la parole de quelqu'un, d'une personne. Alors c'est vrai qu'une personne morte ne parle plus et n'agit plus en ce monde, à moins que la mémoire la fasse vivre. Mais par la mémoire, il est encore possible de prendre en main quelque chose de cette personne qui peut être encore, et maintenant et toujours, source de vie en ce monde. Et alors, par notre mémoire, oui, les morts peuvent encore faire la louange à Dieu et peuvent encore élever la vie. Alors bien sûr, il y a un travail à effectuer pour que cette mémoire soit effectivement source de vie. La Bible parle de ce travail de façon imagée. Elle en parle souvent à travers l'image de moisson ou de vendange. Moisson qui va être suivie par le vannage du blé pour ne garder que le bon grain et éliminer la paille. Ou vendange qui est suivie par le pressage des grappes pour ne garder que le bon jus et éliminer le mou. Vient ensuite l'image de la fermentation pour donner ce qui est alors source de nourrissement par le pain de vie et mise en joie de notre être par le vin de la vie éternelle. Il y a ainsi deux étapes essentielles dans ce travail de mémoire pour que les morts soient encore source d'un dynamisme créateur divin. La première est une étape de large récolte, de moisson, de vendange pour ensuite faire le tri. Ce travail demande de la lucidité et de l'amour délibérément. Et c'est à l'image du jugement de Dieu, ce que David appelle ici la grâce de Dieu et sa tendresse, pour garder le meilleur sans se laisser contaminer par le moins bon. Alors pour cette étape, nous avons des outils, nous avons la théologie, la philosophie, le bon sens et le cœur. Et puis nous avons aussi le débat entre nous, et nous avons la prière qui est débat avec Dieu pour laisser Dieu élever notre regard et peut-être aussi se sentir moins mis en danger dans cette plongée dans la mémoire, si mêlée, si mélangée. Alors la seconde étape de ce travail de mémoire est plus mystérieuse encore. Elle est de l'ordre de la fermentation, quelque chose d'invisible qui travaille en profondeur cette mémoire, reprenant le meilleur sélectionné dans la première étape et le transformant en une nourriture délicieuse, bienfaisante et réjouissante. Alors ce travail de fermentation est une image pour un travail proprement divin du souffle de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un travail qui se fait dans la prière pour que Dieu lui-même insuffle cet esprit qui fera lever la pâte et qui transformera le grain de mémoire, en pain de vie. Alors notre être, même tout tremblant et ayant perdu son souffle, ayant perdu son ossature, pourra reprendre force. Et nous en avons bien besoin, évidemment, et la détresse de David évoque pour nous bien des détresses. Détresse présente, sans que nous ayons à nous forcer à imaginer ce que ça peut être. Notre détresse, aussi celle de nos proches, détresse de notre pays, celle de notre humanité, celle de notre Église, celle de nos religions. Alors, comme le reconnaît David, notre détresse présente est parfois, ou en partie, conséquence de notre propre faute, faute individuelle ou faute collective, par nos actions ou par nos manques d'engagement ou par nos engagements à tort et à travers, peut-être. David voit dans ses ennuis une possible punition de Dieu, mais certainement pas, évidemment, car Dieu, nous le savons en Christ, n'est par définition même que source de vie et de bonté, jamais source de souffrance, de mort, de malheur pour qui que ce soit. Mais c'est la vie qui nous fait souvent payer cash nos erreurs. Alors comment les éviter, ces erreurs ? Ben, nous ne sommes que des enfants. Et c'est vrai que notre vie est si courte que nous ne pouvons pas prendre le temps de faire toutes les erreurs pour en apprendre quelque chose. Et essayer toutes les bonnes choses afin de les répéter, de les mettre, de les privilégier, et d'avoir ainsi par nous-mêmes une pleine expérience de la vie. Alors pour avancer, pour grandir, pour apprendre, nous avons absolument besoin de l'expérience des autres peuples, des autres cultures, des autres personnes, mais surtout ce trésor immense des générations et des civilisations passées. Car la distance elle-même de ce que donne le temps nous aide à avoir le recul nécessaire pour apprendre la vie. Alors que ce regard sur les vivants qui sont avec nous et cette mémoire de nos morts soit ainsi transformée en louange, nous permettant donc de prendre en main les germes de vie divine qu'ils recèlent et que cela nous libère pour vivre et pour vivre en étant source de vie un peu plus. C'est donc un travail de mémoire bienveillante et spirituelle que nous pouvons faire. Et ce travail décuple, ce travail fait caisse de résonance pour tout ce qui est source de vie et écarte, comme le propose David, écarte ce qui est source d'injustice. Alors oui, à travers nous, à travers un monde qui se portera mieux, les vivants et les morts célébreront encore la source de vie, l'Éternel. Mais pour que ce soit vrai, l'en-tête de ce psaume sur lequel on a tendance à passer trop vite nous donne de précieuses indications comme un mode d'emploi finalement. Ce psaume nous permet d'être vainqueurs, nous dit cet en-tête. Il a pour but de nous amener à l'accomplissement. C'est ce que dit par exemple la traduction qui date de moins 300, qu'on appelle la Bible des Septante, qui traduit ce « pour le chef de chantre » en « Eisto telos », c'est-à-dire pour l'accomplissement ou pour le vainqueur, avec l'aide de Dieu. Mais alors pour que ce soit vraiment pour l'accomplissement que nous avons ce travail proposé par ce psaume, il faut pour cela, nous dit l'en-tête, jouer la musique de ce psaume sur les 8 cordes. Alors précieuse indication, peut-être bien plus mystérieuse pour nous aujourd'hui que pour les lecteurs de l'époque habitués à cette symbolique. Par exemple, tous savaient, à l'époque, pourquoi les garçons devaient être circoncis le huitième jour exactement, et que ce jour était si important qu'il primait même sur le caractère sacré du Shabbat, le septième jour. Car en effet, le 6 évoque le monde matériel, si l'on suit la Genèse. Le monde matériel est donc notre corps. Le 7, il évoque la bénédiction de ce monde matériel par Dieu, et donc l'effort de mettre nos moyens et nos forces au service du spirituel pour qu'il devienne une bénédiction en ce monde. Et le Shabbat est cet exercice qui permet cela, qui travaille là-dessus. Alors le 8, il évoque la sortie de ce monde matériel, l'accès à la transcendance, à la mystique, à la contemplation de Dieu, aux purs idéaux, si vous voulez. Alors pour avancer vers le but, la tentation est forte de n'agir que sur le plan matériel, ce ne serait jouer que sur les 6 premières cordes. L'action en ce monde se fait alors par la seule solidarité humaine, par de beaux projets de construction et par la lutte contre les méchants, les catastrophes, l'injustice. Et c'est très bien, il faut le faire bien entendu, mais ça ne suffit pas et cela ne permet pas d'être vainqueur, ne permet pas d'aller à l'accomplissement, même si c'est pétri de bonnes intentions. C'est ainsi que bien des victoires matérielles, militaires, sociales, éducatives se sont transformées en de vraies catastrophes, comme tous ces traités de Versailles, ces bombardements de Dresde ou d'Hiroshima, ces victoires sur la barbarie de Saddam Hussein, de Kadhafi. Combien de plans banlieues à coups de milliards, de réformes de l'enseignement, d'investissements réussis se révèlent terriblement destructeurs à l'avenir. Alors pour avancer vers le but, il faut jouer aussi de la 7e corde, ajouter du spirituel, de la bénédiction, de la prière, du levain dans la pâte de ce monde, de nos projets. Et c'est d'autant plus indispensable que l'on croit devoir agir activement dans ce monde. Et donc oui, faire place à une dimension spirituelle dans nos projets, jouer aussi sur la 7e corde. Faire de notre travail de mémoire une œuvre bienveillante, intelligente, mais aussi spirituelle, dans la méditation, dans la prière. Alors on ne peut pas vouloir que le monde entier, toutes les personnes individuelles soient croyantes, bien sûr, et c'est pour ça que cette 7e corde, c'est la mission particulière de chaque croyant, de chaque religion, pour que la société puisse recevoir ce service. C'est un service des croyants qu'il peut rendre à sa famille, à son peuple, à l'humanité. Mais jouer sur cette corde est encore travailler dans le monde. C'est encore avoir le monde pour viser, même au travers du spirituel, et donc il faut jouer sur les 8 cordes, nous dit ce psaume de David. Alors jouer de la 8e corde, c'est comme chanter la louange de Dieu, le contempler, pas seulement pour trouver l'action juste, mais le prier pour le seul bonheur de l'aimer et d'être avec lui ou de l'espérer, pour la seule joie de se souvenir peut-être de ce qu'il nous a déjà donné comme accomplissement à l'intérieur de nous-mêmes ou dans ce monde ou dans notre histoire. C'est si profond et si vrai d'être dans cette contemplation pure et désintéressée de Dieu qu'il y a toujours eu dans l'humanité la tentation de se retirer du monde pour ne plus que jouer que l'intégrale des sonates pour la 8e corde seule. Alors c'est sympa, mais ça ne mène pas à l'accomplissement, ça ne rend pas vainqueur de l'asthénie du souffle, ni de l'ébranlement de notre ossature. Pour cela, il faut jouer sur les 8 cordes, nous dit David, sans en négliger aucune. Jouant sur les 8 cordes, notre existence, elle peut alors reprendre souffle, inspirant et expirant un souffle de vie, souffle peut-être puisé dans la mémoire de nos chers disparus. Il peut alors surgir de notre mémoire, oui, le chant des louanges de tout ce qu'il y a de créateur dans nos héros, présents et passés, anonymes ou célèbres. Alors l'Éternel peut faire quelque chose aussi de nos vraies larmes, qui ne sont plus seulement des larmes de crocodile. Et puis ces ennemis que nous désespérions de voir écrabouillés, nous les voyons subitement prendre conscience de ce qu'ils font et en être remués et se réformer tout à fait, nous dit David, et c'est bien là un miracle de Dieu. Alors même nos maladies, nos catastrophes, nos échecs et notre peur, tous ces ennemis intérieurs, peuvent se convertir en élan de bonté et de joie de vivre, élan de service et de louange. Alors là, oui, nous serons vainqueurs et nous pourrons chanter la louange de celui qui, toujours, génération après génération, fait des miracles. Amen. Merci beaucoup. Alors, quelques annonces pour ce dimanche. D'abord, à la fin de ce culte, il y a un temps convivial qui a été préparé pour vous, donc derrière la grande porte, dans le chevet de l'oratoire. Sinon, pour cette semaine, les trois groupes bibliques différents, de différents niveaux de grec, pour le grec biblique, se réunissent donc lundi, mardi et mercredi. Mardi après-midi, il y a l'étude biblique avec mon collègue, le pasteur Woody, sur le psaume 78. L'étude biblique commune mensuelle avec l'église Saint-Eustache aura lieu la semaine d'après. Mardi soir, il y a le groupe d'étudiants. Jeudi, la répétition du chœur de l'oratoire. Vendredi, de midi et demi à 1h30, ici, il y a un concert, donc en entrée libre, bien sûr, chant et orgue, avec Françoise Masset, soprano, et Jean-Dominique Pasquet. Et puis, donc, le dimanche prochain, c'est le dimanche de Pentecôte, avec joie de, voilà, de se retrouver pour, autour des catéchumènes qui donc finissent leurs années de catéchisme. Maintenant, nous sommes le moment de l'offrande et en ce deuxième dimanche du mois, elle est intégralement destinée aux plus démunis par notre service d'entraide.
Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour tout ce qu'il y a de bon dans notre vie. Merci pour tout ce qu'il y a de bon en nous. Merci pour l'immense source de résurrection qu'est ta présence. Tout cela nous donne la soif de te présenter ce qui nous peine. Seigneur, nous pensons devant toi à tous ceux qui souffrent, quelle que soit l'origine de leur souffrance, à ceux qui doivent reconstruire une nouvelle vie après une séparation, un deuil, un échec, une maladie. Nous pensons à ceux qui sont en souci pour leur situation. Aide-nous, Seigneur, à avoir la parole et le geste juste. Aide-nous à accueillir avec joie et à donner avec joie. Seigneur, notre monde n'est toujours pas en paix. Aux quatre coins de la terre, des conflits se déroulent avec leur lot d'exactions, de victimes et de souffrances, de famines et de migrations. Nous te prions pour ces femmes et ces hommes qui en sont les premières victimes innocentes. Nous te prions aussi pour nos soldats, envoyés loin de chez eux. Qu'il s'agisse de ceux que nous croisons dans les grandes villes et qui sont absents de chez eux parfois plus de 8 mois dans l'année. Qu'il s'agisse de soldats en opération extérieure, garde-les. Protège-les, mais en même temps, protège leurs familles, afin qu'elles arrivent à s'organiser, malgré l'absence. Et au moment du retour en famille, permets-leur des retrouvailles apaisées. Nous te prions enfin pour celles et ceux que tu as placés en situation de prendre des décisions influant sur la vie d'autres personnes. Que leurs responsabilités soient politiques, économiques, éducatives ou religieuses. Accompagne-les et donne-leur de savoir prendre leurs décisions pour le bien de ceux qui leur font confiance. Nous pensons devant toi à ceux qui nous sont chers, à ceux que nous avons du mal à aimer. Nous te les confions en particulier. Et Seigneur, unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nous nous mettons debout. Et qu'ainsi nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous amène pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent les cieux. Pour les siècles des siècles. Amen.
Nous restons debout pour la sonnerie aux morts. Je vous demande une... Voilà. Aux morts. Je vous remercie.
Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière. Il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage sur toi et te donne la paix. Amen.
Seigneur, tu nous as fait voir et Toute la terre et tous les cieux ensemble tournés vers leur Dieu célèbrent ta présence. À toi qui fais notre bonheur, à toi grand Dieu soit tout honneur, force et magnifique.